Vous écoutez Bac FM, il est 18h30. Tout de suite, mon invité du soir, je reçois Patrick Noyon de l'association Amnesty International. Nous allons évoquer ensemble la situation des droits de l'homme en cette journée internationale des droits de l'homme. C'est parti. Bonjour Patrick Noyon.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association Amnesty International, vous êtes secrétaire de ce groupe local Amnesty International à Nevers. On va revenir aujourd'hui, évidemment, ce 10 décembre, sur la journée internationale des droits de l'homme, qui est un thème cette année. Ce thème, c'est nos droits, notre avenir maintenant. On reviendra sur ce thème, bien évidemment, sur l'importance de cette journée, surtout dans des jours comme en ce moment, mais des jours qui commencent à devenir malheureusement routiniers, parce que les annonces sont de plus en plus malheureuses, surtout dans certaines parties du monde. On va y revenir. Juste avant, on va évoquer Amnesty International. On l'a déjà beaucoup évoqué ici sur cette antenne, mais ça fait jamais de mal de le rappeler. Est-ce qu'on peut rappeler les principaux objectifs d'Amnesty International, de cette association ?
Oui, ben, Amnesty International est une ONG qui a été créée en 1961 par Peter Berenson, un journaliste. C'était en pleine guerre froide et donc il y avait de nombreuses violations des droits humains pour lesquelles se sont mobilisés un certain nombre de journalistes, notamment Peter Berenson, qui était anglais, et qui a mobilisé son réseau international pour arriver à la création d'Amnesty International, qui avait vocation de défendre les prisonniers d'opinion à l'époque notamment, et les personnes qui étaient emprisonnées du fait de penser autrement que les gouvernements en place. Surtout à ce moment de la guerre froide où il y avait deux blocs, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, après la Seconde Guerre mondiale, et où donc les violations des droits humains étaient nombreuses. L'impartialité qui fait aussi la réputation de l'Amnesty International vient de cette époque-là, puisque pour être crédible, il était d'usage que quand on dénonçait une violation sur le bloc de l'Est, de même temps, on devait dénoncer aussi les violations des droits humains qui avaient lieu dans le bloc de l'Ouest. Voilà. Et on retrouve, c'est ce qui a fait la réputation de l'Amnesty International, de sa crédibilité, notamment par rapport...
De ne
pas prendre parti. Ouais. Et surtout aussi de s'appuyer sur le droit international et sur le droit en général. C'est-à-dire que Amnesty International n'est pas une ONG humanitaire. Une ONG humanitaire vise à pourvoir au manque de moyens et aux besoins que peuvent avoir les populations, aussi bien en termes alimentaires qu'en termes de soins, qu'en termes de vêtements, qu'en termes d'habitation, d'accès à l'eau et ainsi de suite. Tandis qu'Amnesty International est une ONG comme Human Rights Watch, qui est une ONG de défense des droits humains sur la planète. Et on s'appuie pour ça sur les textes internationaux, sur... les conventions qui ont été signées par les différents pays, sur les textes qui régissent le droit des nations au niveau de l'ONU. Et c'est à travers le prisme de ces différentes réglementations que nous dénonçons à travers nos rapports les violations des droits humains sur la planète.
Défendre des valeurs ?
Ah, des valeurs, oui, la valeur de liberté d'abord aussi, de liberté d'expression, de libre circulation... arriver à un épanouissement de l'être humain et de l'individu. Les droits humains sont indivisibles, c'est-à-dire on les prend dans leur intégralité et ils sont universels, c'est-à-dire qu'elles doivent finir par devenir accessibles à toute personne qui est sur la planète.
Est-ce que c'est malheureux qu'Amnesty International doive encore défendre certaines valeurs à l'heure actuelle ? Est-ce que la volonté, c'est que cette ONG ne perdure pas ?
Non. Parce que il faut bien dire que le combat va continuer et continuera. Ça, c'est clair. Parce que la nature humaine fait que justement les leçons de l'histoire, on en tire rarement des conclusions positives.
Ouais,
et souvent, on dit que l'histoire est un éternel recommencement. En tout cas, les mouvements qui régissent les rapports humains à travers les nations, à travers les pays, montrent bien qu'on va de courbe montante en courbe descendante. C'est une alternance de droits respectés. Moi, quand je suis né en 1956, c'est-à-dire au moment où il y avait le mur de Berlin, où il y avait l'apartheid, c'est toutes des choses que j'ai vues s'arrêter. C'est-à-dire la chute du mur de Berlin, l'explosion de l'URSS et donc la liberté offerte à tous les pays qui étaient dans le bloc de l'Est. L'Allemagne se réconciliait. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Toutes ces choses qui ont été des évolutions positives, on pouvait dire, ça y est, le combat est gagné. Ben non, parce qu'au fur et à mesure...
C'est un combat gagné parmi tant d'autres.
Ouais. Oui, parce que le combat continue et on a bien montré qu'après, sur la planète, d'autres murs se sont construits. Il y a actuellement à travers la planète, il y a une soixantaine de murs qui séparent des nations et des individus. Donc ça continue. L'apartheid a été résolu, mais les discriminations persistent, hein, aussi bien au niveau de la religion, que des discriminations liées au genre. Ouais. Donc le combat, il est en perpétuel mouvement et il va continuer. Mmh. Et comme disait Azouz Begaz, il disait à juste titre, lui qui était aussi un militant des droits humains, on est chaque militant et le maillon d'une chaîne qui va continuer à s'agrandir dans les années qui viennent. Et donc, il ne faut jamais baisser les bras, il faut continuer. Il faut savoir qu'on n'est qu'un maillon de cette chaîne, qu'on doit non pas se décourager, mais être conscient que chaque membre, chaque maillon qui va constituer cette chaîne a pour but de la rendre la plus solide possible pour éviter justement qu'elle se rompe et qu'elle puisse continuer son travail.
Comment Amnesty International participe à certaines décisions, que ce soit sur le plan de certains conflits qu'on peut voir, notamment au Moyen-Orient en ce moment
Alors, on ne participe pas à des décisions. On dénonce, à travers des rapports, les violations des droits humains qui se font, contrairement au droit international, qui se font sur certains territoires, sur la planète. Vous tombez bien, parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe, on est le 5 décembre.
À l'heure où l'on enregistre, nous sommes le 5 décembre, effectivement.
Voilà, alors on enregistre le 5 décembre, et c'est une date importante pour nous, parce que aujourd'hui, à cette date du 5 décembre, sort un rapport d'Amnesty International, justement, sur la situation à Gaza. Depuis 8 mois, notre ONG, à travers ses enquêteurs, recueille des témoignages, des vidéos pour comprendre la situation à Gaza et pour pouvoir expliciter, au regard du droit international, les violations qui étaient commises contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Donc ce rapport, qui fait plus de 300 pages, sort officiellement aujourd'hui et montre bien que notre travail consiste dans la dénonciation, la recherche, l'enquête d'éléments qui viennent à pouvoir pointer du doigt, quelle que soit l'origine du gouvernement, pointer du doigt les violations qui sont complètes, qui sont commises par ces gouvernements.
Et qui peut avoir un poids dans certaines décisions, notamment dans le fait de prendre certaines décisions pour certains États, certains représentants politiques.
C'est-à-dire que le fait qu'Amnesty International rende des rapports crédibles, les États sont parfois amenés, et même souvent, à devoir modifier leur comportement du fait de pouvoir continuer à s'inscrire dans le fonctionnement des nations. Être en marge des nations, c'est quand même, pour certains, pour beaucoup d'États, c'est quand même un lourd poids à devoir assumer. Tout rapport qui vient d'Amnesty International et d'autres ONG qui dénoncent les violations qu'il y a dans les pays, au regard du droit international, de la Cour pénale internationale, ainsi de suite, renvoie une image très négative de ce pays et donc vient à limiter ses actions au niveau international.
La reconnaissance de l'État palestinien, c'est un sujet qui va revenir de plus en plus dans le débat public. Est-ce qu'Amnesty International sera amené à communiquer sur ce sujet-là ?
Oui, bien sûr. Déjà, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, s'est positionnée par rapport à la reconnaissance de l'État palestinien. Il en est de même pour certains États, dont la France. Après, nous, on se place, comme je vous dis, au niveau du droit.
Emmanuel Macron qui a dit, je précise juste pour les personnes qui nous écoutent, qui a dit qu'il était pour la reconnaissance d'un État palestinien, mais qu'il fallait prendre son temps et qu'il y ait aussi des discussions avec Israël dans certaines...
Il faut manier la chèvre et le chou, comme on dit effectivement. Mais on n'est pas des négociateurs. On dit, à Gaza, il s'est passé ça. Voilà les exactions qui ont été commises. Voici les violations du droit humanitaire qui ont été faites. Voici les violations du droit international et de la Convention de Genève qui ont été faites fait à l'égard des populations civiles, notamment. Voilà, on n'en tire pas de conclusion, on ne dit pas donc, voilà.
C'est donc il faut, ouais, mais, ouais, bien
il
sûr.
Faut dénoncer. Ouais. C'est pour ça que ce rapport fait 300 pages, et les rapports d'amnistie sont toujours très très détaillés, et on prend toujours, des fois on dit, pourquoi ils ne réagissent pas ? Ce n'est pas qu'on ne réagit pas, c'est-à-dire qu'on prend le temps de recueillir des informations et des preuves pour être crédible dans ce qu'on va dénoncer. Notamment lors des deux intifadas qui ont précédé les années précédentes, du moins qui ont eu lieu les années précédentes entre le peuple palestinien et Israël, durant ces deux intifadas, Amnesty a rendu des rapports dénonçant aussi bien du côté palestinien que du côté israélien ces actions. Et les deux pays, les deux entités d'ailleurs, ont rejeté les rapports qui avaient été faits. On dit non, c'est pas vrai. Donc il y a bien un poids qui est donné par Amnesty et qui est souvent cité par les journalistes ou par les médias comme étant un élément de crédibilité.
Évoquer un sujet comme celui-là et parler ensuite de célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, c'est un petit peu opposé quand même. Est-ce qu'on peut parler de célébration dans certains coins du monde d'une Journée internationale des droits de l'homme ?
Il faut la célébrer parce que ça met en évidence combien c'est utile. Il faut savoir que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a été rédigée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, notamment par Eleanor Roosevelt et par un Français, René Cassin, et d'autres personnes. Et vous aviez comme rédacteur à l'époque Stéphane Hessel. Et donc, le pourquoi de cette déclaration, c'était après les horreurs qui s'étaient passées pendant la Seconde Guerre mondiale, il était important de donner un texte qui donne, un peu utopique peut-être, mais en tout cas qui donne un espoir, et de dire, on est une humanité qui peut arriver à ce fonctionnement-là et au respect de chacun. Chaque être humain doit trouver sa place et sa dignité au sein d'un collectif et des peuples sur toute la planète.
Et ça fait partie des droits fondamentaux qui sont mentionnés.
Ouais, et puis cette déclaration de 29 articles de 1948, si elle était une utopie, en tout cas les nations et les défenseurs des droits se sont acharnés à essayer petit à petit de la faire appliquer par des conventions internationales nombreuses actuellement et qui ont été ratifiées par de très nombreux pays. Par exemple, la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'on a célébrée il y a quelques temps, émane de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une convention qui prend sa source dedans. Et donc, il y a à peu près une 70 à 80 conventions internationales qui régissent les obligations des pays par rapport aux droits humains dans différents domaines.
Ces droits qui sont souvent bafoués ?
Ces droits sont souvent bafoués. D'ailleurs, tous les pays ne les ratifient pas. Donc, il y en a qui ne signent pas ces conventions internationales, notamment les États-Unis n'en signent aucune. Comme ça, ils gardent leur liberté totale de pouvoir faire ce qu'ils veulent.
On parlait de murs tout à l'heure, notamment, ce sera certainement le cas avec un projet Donald Trump entre les États-Unis et le Mexique.
Il y en a déjà des morceaux qui existent. Et c'est une situation qui est extrêmement alarmante aussi dans ce pays, dans ce territoire là-bas. Mais ces conventions, elles sont parfois ratifiées, mais ça veut dire que les États s'obligent à modifier leur droit national pour pouvoir les appliquer. Et là, parfois, la France, même aussi au niveau de notre pays, ça traîne un peu, notamment en matière de droits de l'enfant, quoi.
C'est-à-dire ?
Par exemple, une fois qu'un pays a ratifié une convention, l'ONI a des organismes de contrôle pour voir si effectivement le pays met ses lois en conformité avec la convention qu'il a ratifiée. Et régulièrement, les contrôleurs de l'ONU, quand ils viennent voir si la Convention internationale des droits de l'enfant est bien appliquée en France, font des constats qui disent que la France, c'est quand même pas terrible. Inégalité de traitement, ainsi de suite, les centres de rétention dans lesquels il y avait encore des enfants, les mineurs qui sont laissés dans des hôtels alors qu'ils devraient être dans les foyers ou en charge de l'ASE ou ainsi de suite. Il y a encore beaucoup de choses.
Prise en charge surtout dans une situation de précarité la plupart du temps.
Par exemple, on compte sur le territoire 30 000 enfants qui dorment dans la rue ou qui sont dans une très grande précarité avec leur maman souvent. Donc il y a encore des choses à pointer et qui sont pointées par l'ONU et qui mettent un peu la France en difficulté de pouvoir remplir leurs obligations dans ce domaine-là.
Nevers, Ville Amie des Enfants, c'est un label qu'elle a depuis un certain temps maintenant.
Avec l'UNICEF, oui, effectivement.
Vous êtes d'accord ? Nevers est une Ville Amie des Enfants.
C'est une question difficile que vous me posez. Je ne connais pas effectivement toute la politique jeunesse que la ville de Nevers va entreprendre. Je fais confiance à l'UNICEF pour avoir défini les critères qui régissent cette charte. Mmh. Et donc, si elle estime que Nevers remplissait les conditions propices à la signature de cette charte, je leur fais confiance pour ça. Par contre, ce qu'on peut constater, mais là, je vous parle en tant que citoyen.
Oui, bien sûr. Hein, bien
pas
sûr
en
oui.
tant qu'amnistien, en tant que citoyen, ce qu'on peut constater, c'est que, notamment au niveau des écoles, il y a encore beaucoup de choses à faire. On sait bien que c'est un lourd budget, mais néanmoins, il y a encore des choses à faire au niveau du scolaire, du périscolaire, de l'école, en tout cas du primaire, les maternelles, qui sont en charge de la commune.
Cette journée des droits de l'enfant, elle rejoint donc, comme vous le disiez, cette journée internationale des droits de l'homme. Cette année, il y a un thème, nos droits, notre avenir maintenant. Qu'est-ce qu'il vous évoque, ce thème? Il veut dire beaucoup de choses, finalement, c'est assez large.
C'est assez large, en même temps, il est très revendicatif dans sa dimension. Ça veut dire que... Ça ne doit pas rester qu'un mot ou une phrase, ça doit être quelque chose qu'on réclame, qu'on revendique tout de suite et maintenant. Mmh. Pour garder cette idée à l'ordre du jour, pas la mettre de côté, ne pas la fractionner. On sait que depuis plusieurs années maintenant, les ONG qui défendent les droits humains, mais aussi les personnes qui défendent les droits humains, sont victimes de persécutions. Des États disent « Oh, ben les droits humains, on peut en prendre une partie, mais pas tout, comme ça nous arrange. » Voilà, donc il est très important, à travers cette phrase, de dire que les droits humains, maintenant, on ne diffère pas, on les maintient, on les défend, et si on peut les élargir, on le fait.
Oui, justement. Et comment cette journée, elle contribue justement à la sensibilisation des droits humains? Parce qu'on, certes, on les célèbre, ces droits humains, mais on sensibilise aussi.
On sensibilise, mais ça, on le fait tout au long de l'année à travers les actions que les différentes ONG mènent ou Amnesty International, à travers les groupes locaux qu'il y a sur toute la France. Hein, puisqu'on est une force militante de 120 000 adhérents, nous avons 250 groupes locaux répartis à travers la France. Nous avons 200 antennes jeunes. Donc tout ça, c'est une force militante importante qui, tout au long de l'année, défend et promet les droits humains.
Comment chacun peut s'impliquer, pour les personnes qui nous écoutent par exemple, s'impliquer dans la promotion des droits de l'homme?
Alors c'est maintenant extrêmement facile, puisque la modernité et l'Internet vous permet, chers auditeurs, de pouvoir, de chez vous, si vous avez un ordinateur, agir tous les jours au quotidien pour la défense des droits humains. Vous allez sur le site d'Amnesty France, c'est-à-dire amnesty.fr. Vous aurez la page de garde sur laquelle vous aurez accès à toutes les pétitions, toutes les campagnes qui sont menées par Amnesty International, et donc déjà de chez vous, dans un certain confort, vous pourrez agir pour la défense des droits humains partout sur la planète. Vous pourrez aussi communiquer, faire vos remarques, poser des questions. Donc c'est un site qui peut être aussi également très interactif. Donc je vous encourage à y aller, à la fois pour votre information personnelle et aussi pour, à votre niveau, pouvoir être acteur et militant des droits humains.
L'année 2024 est en train de s'éteindre à petit feu pour laisser place à 2025. Quels sont les projets d'Amnesty France pour 2025? S'il y avait un travaux sur cette année, lequel ce serait?
Alors, il y a plusieurs chantiers, plusieurs campagnes. Donc il y a toujours la lutte contre les discriminations, qui sont importantes. La défense des défenseurs des droits humains, qui sont de plus en plus menacés, mis en prison et persécutés. Le problème des migrants, des migrations, des flux migratoires, qui vont devenir de plus en plus importants compte tenu du réchauffement climatique. Il y a actuellement, chaque année, on a compté pour 2024, probablement 40 millions de personnes déplacées pour des raisons liées au climat. C'est pas les 300 ou 200 migrants qui sont à droite ou à gauche répartis qui font la différence. C'est qu'il faudra, à un moment donné, sur la planète, aussi pouvoir gérer ces flux migratoires-là, les sécuriser afin que ce ne soit pas laissé aux mains des passeurs, afin que les femmes et les enfants qui migrent puissent aussi migrer en toute sécurité. Hein, il faut savoir que parmi les femmes qui migrent, il y en a de plus en plus qui prennent le chemin de l'immigration. Sur les femmes qui migrent, il y a environ de 30 à 40% qui sont victimes de viols ou d'attaques sexuelles pendant leur migration.
Ouais, bien sûr, ça aussi, ça fait partie des travaux de cette année 2025. Ouais,
oui. Et puis, dénoncer les... On va dire ça comment? Les incohérences, je dirais, des pays qui, d'un côté, disent ne plus vendre d'armes et d'un autre côté, continuent à fournir, par la vente des armes, les différents conflits qu'il y a sur la planète et qui font de plus en plus de victimes.
C'est un sujet politique, là, pour le coup, français notamment.
C'est un sujet politique, c'est vrai, mais on voit bien que... Le gouvernement français et les autres gouvernements aussi qui fournissent des armes indirectement sont de plus en plus... touchés par les rapports qui sortent et qui les dénoncent. Ça commence à prendre de plus en plus de poids. Il y a une convention, depuis maintenant 5 ans, une convention internationale qui a été signée sur les ventes d'armes par l'ONU, c'est-à-dire donner une traçabilité à tout ce qui est vente d'armes sur la planète. C'est pour ça que les photos satellites, les documents qui sont ramenés vidéo pour Amnesty, permettent de pointer spécifiquement l'origine d'un char, l'origine d'une Jeep, d'un camion, d'un canon, d'un missile. Et donc, vendre à un État X pour que cet État X vende à un État en conflit, c'est quand même traçable maintenant. Donc, on peut dénoncer comme la France qui vendait des armes à l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, non, on s'en sert pas, mais s'en servait pour lutter contre le Yémen, où il y avait des populations civiles qui étaient victimes de ces bombardements ou de ces attaques de missiles.
La grande ligne d'un rapport comme celui-là, c'est de dire délaisser un petit peu le côté économique pour favoriser le côté humain.
Surtout, oui. Et puis de dire que les civils, qu'il y ait des conflits armés entre les nations, ce n'est pas à nous à juger l'opportunité de dire que c'est un bon conflit ou un mauvais conflit. Par contre, on est là pour dénoncer l'atteinte qui est faite aux civils qui habitent dans ces pays et qui subissent les bombardements et qui meurent.
Ou qui
sont victimes de viols. Hein. Là, le viol est vraiment devenu une arme de guerre. Ça, c'est clair. Le déplacement des populations également.
Ça a été beaucoup mis en avant, notamment en Ukraine, par exemple.
Le déplacement des enfants qui ont été emmenés en Russie et ainsi de suite. Donc, c'est surtout les populations civiles. Ils n'ont pas à subir à ce point-là les violences qui sont liées aux guerres. Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les principales victimes étaient les soldats, les militaires. Et après, ça a complètement basculé, où en fait, ce sont les civils qui étaient plus victimes que les militaires.
On comprend bien, en tout cas, que les travaux à venir pour Amnesty France, ce sont des travaux de taille internationale qu'on peut soutenir donc sur Amnesty.fr.
Et puis aussi sur notre territoire, on est un petit groupe, donc on fait des actions beaucoup de ce qu'on appelle l'éducation et droits humains. On a un partenariat maintenant depuis 3 ans avec le lycée Raoul Follereau et on mène des conférences liées aux droits humains depuis 3 ans régulièrement au sein de l'établissement. Et il y a un projet qui est en train de naître actuellement et dont vous ferez peut-être écho, c'est que si les C1 vont partir au mois de février 2025 à Calais, pour juger eux-mêmes de la situation des migrants qui est fait sur le littoral.
Pour avoir un constat réel.
Pour faire un travail de journaliste, pour aussi intégrer des ONG qui s'occupent de la prise en charge des migrants et pouvoir ensuite témoigner de la réalité des faits à l'ensemble du lycée, peut-être au-delà de ça.
Ouais, bien sûr, on aura l'occasion évidemment d'en reparler ici sur BAC. Merci beaucoup Patrick Noyon d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes secrétaire du groupe local Amnesty International Nevers et membre de l'association Amnesty International. Merci.
Merci.
Voilà BAC FM, tout de suite c'est le retour du son pop rock. Je vous donne rendez-vous demain à 10h30 en direct pour Action, votre rendez-vous ciné. Je serai avec Manuel et Letty. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.